Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Géopolis, votre émission qui explore les ordres et désordres du monde. Bonjour Ulrich, aujourd'hui c'est la route de la Centrafrique que nous prenons dans cette nouvelle édition de Géopolis.
Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous, nous partons effectivement aujourd'hui en Centrafrique. La Centrafrique, un grand pays comme son nom l'indique, du centre du continent africain, un pays plus grand que la France, mais en même temps très peu peuplé, avec tout juste 6 millions d'habitants, et un pays qui cumule de profondes difficultés.
De profondes difficultés en effet, et qui est surtout confronté à de multiples crises, hein.
Oui, exactement. Nous en reparlerons avec notre invité. Mais effectivement, la Centrafrique traverse de multiples crises politiques, économiques et sociales au premier chef. Mais pas seulement. Le pouvoir central à Bangui, la capitale du pays, a ainsi toutes les peines du monde à exercer son contrôle sur l'ensemble du territoire, dont de larges parties sont sous la coupe de groupes armés, hein, parfois très puissants. Et malgré les efforts de médiateurs internationaux comme l'Union africaine ou l'ONU, qui ont essayé de mettre les différents acteurs et notamment les chefs de différents groupes armés autour d'une même table, l'an passé, la situation n'a pas connu de véritables améliorations, loin s'en faut. Et c'est toujours la logique communautaire, la logique du chacun pour soi qui prédomine. L'ONU tente d'éviter que la situation devienne totalement ingérable en maintenant une force de maintien de la paix sur place, la MINUSCA, mais l'opération n'est pas vraiment un succès.
Une situation instable et très compliquée, mais qui n'est pas nouvelle.
Oui, effectivement, Thomas, une situation qui est loin d'être nouvelle. Ce constat d'une situation particulièrement délicate en Centrafrique, il est ancien. Le pays occupe malheureusement depuis longtemps les tréfonds des classements internationaux en matière de développement humain ou encore de corruption, et une large partie de la population, notamment celle qui n'a pas eu d'autre choix que de prendre la route de l'exil, doit le plus souvent recourir au soutien de la communauté internationale. La France, l'ancienne puissance coloniale, a longtemps été le parrain de certains régimes bien peu fréquentables de la Centrafrique. On a tous en mémoire cet épisode presque grotesque du règne de Bokassa. On était alors dans les années 70, dont le couronnement somptuaire avait dilapidé un quart du budget de l'État et causé un émoi international. Depuis, malgré le potentiel du pays, la Centrafrique n'est pas parvenue à sortir de l'ornière économique. Une anecdote, on dit peut-être long sur la situation au début des années 2000, pendant le mandat de Jacques Chirac. Je me souviens que celui-ci avait dû envoyer son avion personnel chercher son homologue centrafricain avec lequel il devait avoir une entrevue. Les caisses étaient tellement vides à Bangui qu'il était impossible de remplir de kérosène l'avion présidentiel centrafricain.
Aujourd'hui, d'autres parrains s'ajoutent aux Français, Ulrich.
Oui, c'est vrai, les Russes notamment sont désormais très présents en Centrafrique, où se joue une véritable compétition géostratégique avec Paris. Ce sont d'ailleurs des militaires russes qui jouent les gardes du corps de l'actuel président Faustin Archange Touadéra, un président qui vient d'être réélu dans des conditions chahutées, alors que 2 électeurs sur 3 n'ont pas voté du fait du climat de tension dans le pays et que certaines régions font face à des offensives de chefs de guerre. Le président peut s'appuyer aussi sur ses parrains russes qu'il soutient militairement dans la reconquête de certaines villes dont le contrôle lui échappe. Une reconquête qui, selon les dernières informations en provenance d'ONG, se déroule d'ailleurs non sans violence. Selon l'ONU, toujours, elles ont conduit en décembre et janvier, tout récemment, au départ de 200 000 Centrafricains de plus vers les pays voisins. Une situation qui a conduit l'émissaire, toujours des Nations Unies en Centrafrique, à réclamer au Conseil de sécurité une augmentation substantielle du nombre de casques bleus déployés dans le pays.
Sur cette situation particulièrement compliquée, vous avez pu interroger un humanitaire de retour de Centrafrique, Nicolas Eke. Nous allons écouter l'interview, mais avant cela, une pause musicale. Centrafrique, Nandouzou, opération Bokassa Nandouzou, Kolina Wali, Pokana Mamboko, Esala Kwatiaka. Colonel Bokassa fana elegeti kwao Ebu miteretie Beoko na beoko mamboko na mamboko Ebu na longangu Okana zese na mamboko Ede seize esala kwa Banana menila Centrafrika ke wangeza mingi Sukseti kodotie akegi kwati yaka Opération Bokassa l'Ottawa, Kwezi Avena Kwatiaka, Tonga Sosifa de Centrafrique, Akesigina sous-développement. Opération Bokassa l'Ottawa, Kwezi Avena Kwatiaka, Tonga.
Congo sorti pas de Centrafrique. La Kessigina sous-développement. Tonga sorti pas de Centrafrique, la Kessigina sous-développement. Opération Bokassa à l'endroit où Ekwesia Bena Kwadiaka. Tonga sorti pas de Centrafrique, la Kessigina sous-développement.
Donc de retour dans l'émission Géopolis sur Euradio où nous parlons aujourd'hui de la situation en Centrafrique avec Nicolas Ekay. Vous avez été aide humanitaire pendant un an en Centrafrique, basé dans plusieurs bases du sud-ouest et du nord du pays. Alors on va parler de cet immense pays, mais est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement pour commencer un tableau peut-être de cet État plus grand que la France et particulièrement peu peuplé, hein. Je crois qu'il compte moins de 6 millions d'habitants, hein.
Bonjour et merci pour l'invitation. Bon, effectivement, la Centrafrique, c'est un pays qui est assez grand. En fait, il engloberait la France et la Belgique ensemble dans une même entité géographique pour environ 4,5 millions d'habitants. C'est un pays qui est assez enclavé, en fait, puisqu'il n'a pas d'accès à la mer, qui a peu d'infrastructures en termes de routes. Du coup, ce qui rend un peu difficile tout ce qui va être lié au commerce. C'est un pays qui a un climat tropical avec une saison sèche et une saison humide, comme on retrouve dans cette partie-là de l'hémisphère. Avec du coup des paysages qui vont ressembler à de la savane un peu sur le nord et au sud plus des forêts équatoriales un petit peu verdoyantes. Du coup, diversité de paysages quand même, ce qui en fait un pays assez particulier, assez magnifique. Pour le contexte historique, du coup, c'est un pays qui a eu l'indépendance de la France en 1960 et dans le pays dans lequel on utilise toujours la France comme le français comme langue administrative et qui est aussi enseigné à l'école, mais qui, comme dans la plupart de ces pays de la zone, a une multitude d'ethnies et de langues, avec principalement deux ethnies qui vont être un peu majoritaires, du coup les Gbaya à l'ouest et les Banda à l'est. Et après, une myriade d'ethnies aux quatre coins du pays, avec une proportion en termes de population, on va dire c'est 80% qui est chrétien, 10% musulman et 10% animiste. Mais l'animisme est quand même relativement fort, même dans les autres fragments de religion. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même des rites qui sont liés à cette religion-là dans la religion chrétienne, par exemple. C'est un pays qui est très rural, une population qui vit principalement de culture, où on cultive beaucoup tout ce qui va être manioc, banane, le maïs et le café aussi, par exemple. Qui a de nombreuses ressources, bon, comme on l'évoquera, je pense, au cours de cet entretien, et qui souffre d'un sous-développement chronique. La Centrafrique est un peu le cœur oublié de l'Afrique en termes de crise humanitaire. C'est une crise qui s'étale sur un très, très grand nombre d'années et qui est un peu passée en dehors des radars internationaux à l'heure actuelle. C'est plus une crise dont on parle, en fait.
Vous parliez justement de la diversité des ethnies en Centrafrique. Est-ce que malgré tout, il y a une identité centrafricaine ou alors la population se réclame d'abord de l'appartenance à son ethnie, à son groupe ?
Alors du coup, ça c'est une question assez intéressante parce qu'elle est aussi liée un petit peu à la formation un petit peu de la Centrafrique. Du coup, moi je dirais que la Centrafrique en termes de représentation, c'est juste une représentation géographique qui est assez factice et qui recoupe très peu, qui n'appelle pas à une nation ou un peuple particulier. Du coup, la Centrafrique, malgré un peu le contexte actuel, qui est assez compliqué en termes d'analyse, est un pays où les ethnies et les religions ont cohabité en bonne entente pendant de très nombreuses années. Et même si une classe éduquée peut se revendiquer comme centrafricain, les divisions restent très fortes entre les ethnies. Le pays a été un peu gangréné de népotisme et de clientélisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait il y a eu un grand nombre de coups d'État qui ont amené sur le devant de la scène politique des leaders de certaines ethnies et qui, du coup, mettaient en avant les personnes de leur ethnie à différents postes de responsabilité ou dans l'armée. Ce qui fait que le pays reste tout de même extrêmement fragmenté en fait en termes ethniques et n'a pas réellement d'existence en fait sur en termes de nation. Et beaucoup d'ethnies en fait sont transfrontalières, en fait vont se retrouver entre le Cameroun et la Centrafrique, ou entre la Centrafrique et le Tchad par exemple, comme c'est le cas pour les Sahara. Je dirais que c'est quand même c'est assez factice en fait cette existence de la Centrafrique.
Alors c'est un pays pauvre et peu peuplé, hein, vous nous l'avez rappelé, mais qui attise, on va en reparler, hein, qui attise l'appétit des grandes puissances. Et c'est quoi les ressources du pays?
Du coup, elles sont multiples. Hein. C'est vraiment un pays qui est assez riche, qui l'est peut-être moins que la RDC voisine, que la République démocratique du Congo, mais qui a quand même énormément de diamants, d'uranium, d'or, d'argent, un peu de pétrole, du nickel.
Vous nous l'avez dit, hein, la situation est compliquée. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que la Centrafrique, elle est réellement sous contrôle d'une autorité étatique? J'ai lu, hein, pour préparer cette émission, certains observateurs affirmaient que les deux tiers du pays échappent au contrôle de Bangui. Est-ce que, quand on est sur place, c'est quelque chose qui apparaît assez nettement?
Bon, effectivement, la Centrafrique, c'est un pays où l'État a très très peu de pouvoir en fait et contrôle absolument pas son territoire en fait. C'est-à-dire qu'il y a la zone du sud-ouest qui va plus ou moins prêter allégeance du coup au gouvernement, mais en fait il est absolument impossible pour les FACA, du coup les forces armées centrafricaines, d'avoir un contrôle total du territoire parce qu'ils sont en sous-effectif, ils sont absolument pas entraînés et ils ont du matériel qui n'est pas adéquat, ce qui fait qu'en fait il y a vraiment énormément de groupes armés qui sont partout dans les différentes zones du pays. Du coup, par exemple, on a un groupe armé qui est très important au nord-ouest, qui va être les 3R, le FPRC au nord. Moi, j'ai travaillé dans une zone qui était sous contrôle de l'UPC. Et ensuite, il y a un peu la LRA qui est venue d'Ouganda avec Joseph Kony, qui est un peu sur l'est. Du coup, ça, c'est un peu schématiquement. Il y en a beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a, depuis 2013, un petit peu deux grandes familles, si je peux appeler ça comme ça, de groupes armés. Du coup, la SELECA, qui venait principalement du Nord, qui s'est étendu sur tout le pays et qui est assez structuré, assez organisé, assez hiérarchisé. Et il va y avoir des groupes d'autodéfense qui se sont construits historiquement contre ce groupe-là de la SELECA, les Anti-Balaka, qui, eux, est à la base des groupes d'autodéfense pour défendre en fait leur communauté, leur village contre l'arrivée de la SELECA, mais qui se sont criminalisés un petit peu, si je peux dire, par la suite, en fait, et qui ont eux aussi commis des exactions à la fin. Et ce qui fait qu'en fait, voilà, moi, par exemple, dans les zones d'intervention dans lesquelles j'ai pu travailler, elles sont souvent divisées entre les différents groupes armés. Une zone va être contrôlée, par exemple, par l'UPC. Et ensuite, on va avoir des villages ou des regroupements de villages qui vont être contrôlés par les anti-balaka. Ce qui, du coup, amène certaines complications dans la mise en place de projets humanitaires. Parce qu'en fait, la négociation doit être faite avec chacun des leaders. Et quand la structure de hiérarchie n'est pas forcément bien mise en place, comme ça peut être le cas chez les anti-balaka, ça peut rendre la négociation et la négociation pour l'accès assez compliquée dans certaines zones d'intervention. La Centrafrique n'est absolument pas sous contrôle étatique.
Alors, il y avait des accords qui avaient été signés en février 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. Vous en avez mentionné une partie d'entre eux. Ça a été un échec total, hein ?
Bon, effectivement. Alors, ça a été l'accord qui a été signé à la base était dans l'optique de pacifier un peu les relations entre les différents groupes armés qui avaient quand même des assises territoriales assez grandes, c'est-à-dire que certains groupes armés contrôlent de très grandes parties du territoire. Du coup, l'idée de ces accords à la base était louable, mais a fait par contre-coup, a donné lieu à une institutionnalisation un petit peu des zones contrôlées par certains groupes armés au niveau étatique, et la plupart des personnes qui étaient dans ces groupes armés et qui en étaient les leaders se sont retrouvés à des postes de ministres en fait. Du coup, ce qui n'a pas forcément réglé la question des groupes armés, car les exactions ont continué. Et paradoxalement, les attaques un petit peu contre les civils ont pu augmenter parce qu'en fait, les groupes armés se confrontaient un petit peu moins, et ce qui a découlé en fait à une exaction un peu plus importante contre les populations civiles. Et du coup, ces accords de 2019 viennent de voler en éclats en décembre avec les élections. Et du coup, effectivement, le résultat est assez relatif, si je peux dire.
Alors justement, vous avez parlé d'élections en 2020. Dans quelles conditions, quand on vous écoute, on voit le contexte que vous nous racontez, comment ça se passe des élections en Centrafrique?
Alors, des élections en Centrafrique, déjà, bon, encore une fois, il faut revenir sur le contexte un petit peu, c'est-à-dire que c'est des zones qui sont très, très difficiles d'accès, très peu de routes goudronnées dans le pays, la plupart des routes sont des pistes, avec des zones qui ne peuvent être accessibles que en bateau ou avec plusieurs semaines, voire de temps en temps un mois, pour les zones les plus éloignées, de voyage, en fait. Ce qui fait que, juste pour installer tout ce qui va être inscription pour les électeurs, tout ça, relève d'un défi logistique extraordinaire. C'est-à-dire que nous, en tant qu'ONG, avec un certain nombre de moyens, on a eu des difficultés énormes à pouvoir mettre en place nos programmes. Du coup, le défi logistique est là. Ensuite, ces élections en Centrafrique, elles ont été émaillées un petit peu de violence, en fait. C'est-à-dire que le président qui avait été chassé du pouvoir en 2013 est revenu parce qu'il a été invalidé par le Conseil constitutionnel, est revenu sur le devant de la scène politique et a organisé 6 des 14 groupes armés qui avaient signé les accords autour de lui pour prendre en fait la capitale, parce qu'il n'était pas d'accord avec le résultat, bon, qu'il ne pouvait pas se présenter aux élections. Et ce qui a amené, et qui a toujours lieu aujourd'hui, à des combats un peu partout dans le pays. En fait, la plupart des grandes villes se sont retrouvées prise d'assaut. Nous, nos zones d'intervention, par exemple, on a dû quitter les bases. La plupart des ONG ont dû partir. Et à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, la plupart des grandes villes ne sont pas reprises. Je sais qu'on a repris Bosangoa, du coup, que Bosangoa était repris le 24 février. Mais il manque encore un certain nombre d'axes à déverrouiller, notamment celui qui lie la Bangui avec le Cameroun, qui est un peu le poumon économique de la Centrafrique, parce que la Centrafrique produit très peu de produits et importe énormément. Et ce qui fait qu'en fait, il y avait vraiment une stratégie de la part de ces groupes armés d'asphyxier la capitale et de remettre en cause en fait ces élections. Du coup, des élections qui ont eu lieu, mais qui ont été très contestées, parce que énormément de bureaux de vote n'ont pas pu être mis en place. Du coup, à l'heure actuelle, la Centrafrique est toujours dans un flou par rapport à son avenir, comme ça l'a été assez souvent au cours de son histoire.
Et bien sûr, c'est la population civile hein, qui paye les principales conséquences de la situation que vous décrivez. J'ai lu qu'en 2021, 2,8 millions de Centrafricaines et Centrafricains, soit 57% de la population, auront besoin d'assistance humanitaire ou de protection. Hein. La situation, est-ce qu'elle est uniforme sur l'ensemble du territoire ?
Alors, le pays est quand même extrêmement inégal en termes d'infrastructures, encore une fois, de routes et de dessertes. Ce qui fait que certaines zones ne sont pas accessibles ou très peu accessibles. Du coup, les problématiques d'urgence et de développement vont être un peu différentes en fonction des régions. Mais généralement, la Centrafrique, en fait, il faut se rendre compte que c'est un pays qui a un état fantôme, un sous-développement chronique. En termes d'IDH, du coup, d'indicateurs de développement humain, on est sur l'avant-dernier pays au monde, qui est pas très réjouissant, je dirais, avec une espérance de vie 53 ans, 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, du coup avec moins d'$1,90 par jour, une des mortalités maternelles et infantiles les plus élevées au monde, énormément de déplacés internes et de déplacés dans les pays aux alentours, avec les taux de malnutrition et de sous-nutrition extrêmement élevés. Du coup, en fait, les besoins sont tellement vastes et importants en Centrafrique que la plupart des régions, la plupart des zones auraient besoin d'un certain type d'aide. C'est-à-dire que, bon, sur tous les programmes qui peuvent être mis en place, ça peut être de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement, des programmes de sécurité alimentaire, la construction d'infrastructures, tous les thèmes de protection. Tous ces chiffres, en fait, amènent vraiment un quotidien assez sombre de la population avec des conditions de vie assez précaires. Malheureusement, une aide humanitaire qui est incapable de faire face à la totalité des besoins, en fait, de cette population.
Ouais, et puis il est très difficile, hein, je lisais, pour les humanitaires de faire leur travail. Hein. En 2020, 424 incidents affectant les travailleurs humanitaires ont été enregistrés contre 306 en 2019, hein, soit une hausse de 39%.
Hein. Oui, effectivement, la Centrafrique reste un des pays les plus compliqués en termes d'aide humanitaire. C'est un des pays les plus dangereux, avec, comme vous l'avez cité, un peu les taux les plus élevés d'attaque envers les humanitaires. Du coup, ce qui est important par rapport à ça, c'est que le monde humanitaire doit continuer à avoir une discussion avec la plupart des groupes, en fait. C'est-à-dire que l'acteur humanitaire dans ce type de contexte discute énormément avec les leaders des groupes pour l'accès, pour sa sécurité, en fait, en rappelant à chaque fois les principes humanitaires qui définissent ce en quoi consiste l'aide humanitaire, c'est-à-dire à apporter une aide aux populations dans le besoin sans aucune distinction entre elles, en fait, et qui n'a pas de fond ni de visée politique, religieuse ou idéologique. Voilà, du coup, c'est un peu ça l'idée d'être humanitaire en Centrafrique, c'est vraiment rappeler constamment aux différents acteurs que nous, on est impartial, on est indépendant, on est neutre et qu'on aide la population en tant qu'elle a des besoins. Et malgré ce type de rappel, effectivement, il y a toujours des exactions qui arrivent au jour le jour contre les humanitaires dans ces zones d'intervention.
Et pour en rajouter le tableau catastrophique que vous décrivez, il faut rajouter également qu'un Centrafricain sur quatre est déplacé soit à l'intérieur du pays, soit dans un pays voisin.
Oui, c'est exact. C'est exact. La plupart des conflits et la confessionnalisation du conflit après 2013, c'est-à-dire schématiquement dans des très grandes lignes entre des factions plus chrétiennes et des factions plus musulmanes, a amené à des déplacements massifs, parce qu'à la base, le pays a vraiment une vie où toutes les ethnies et toutes les religions vivaient un petit peu en harmonie pendant très longtemps, et la confessionnalisation a fait que certains musulmans ont dû partir des zones qui étaient majoritairement chrétiennes et vice-versa. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de camps de réfugiés à l'intérieur du pays qui sont dans des conditions assez complexes aussi et qui n'ont pour l'instant pas forcément de, malgré l'évolution qui était jusque-là plus ou moins positive du contexte avant les élections de décembre, n'ont pas forcément de perspective de revenir dans leur zone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de travail au niveau de la justice par rapport aux personnes qui ont commis des exactions. Et les groupes, en fait, qui ont commis ces exactions sont toujours là, dans la population. Ce qui fait que, voilà, à l'heure actuelle, les réfugiés ne reviennent pas forcément trop vers leur lieu de vie. Et effectivement, énormément, du coup, ça c'est plutôt du déplacement interne, mais énormément de réfugiés sont aussi partis dans des pays un peu aux alentours, qui, eux aussi, malheureusement, ont des situations relativement complexes en termes de conflits et de conflictualité, notamment la RDC, le Sud-Soudan, le Soudan, le Tchad. Ce qui fait que ces réfugiés sont malheureusement laissés un petit peu à l'abandon dans ces zones, vivent sous perfusion un petit peu humanitaire.
On en oublierait presque l'épidémie de Covid, hein. C'est peut-être le dernier des soucis en Centrafrique finalement.
Alors, malheureusement, en fait, le Covid a quand même eu des conséquences au niveau de la zone de la Centrafrique, en fait. C'est-à-dire que, comme partout au début, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Bon, c'était un peu la peur mondiale de voir les corps s'amonceler un petit peu partout dans le monde et en Afrique notamment. Ce qui fait que la plupart des activités, un petit peu des projets pour la plupart des ONG ont été mis en pause pour savoir un petit peu qu'est-ce qui devait être fait et voir un petit peu et envisager un peu ce qui allait se passer par la suite. Ce qui fait qu'il y a eu ce temps un peu de battement pendant lequel plus d'acteurs humanitaires, enfin énormément d'acteurs humanitaires ont même été rapatriés. C'est-à-dire que beaucoup d'ONG rappelaient leur staff dans leur pays d'origine pour pas avoir à faire face à une situation un petit peu catastrophique. Mais du coup, les conséquences ont été aussi une fermeture un petit peu et une difficulté pour passer les frontières. Et comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, le pays vit sous perfusion un petit peu du commerce un peu extérieur, ce qui fait qu'il y a eu une inflation assez importante au niveau du pays, notamment sur les produits de base qui sont consommés par la population. C'est aussi, les écoles ont aussi fermé pendant quelques mois, et ce qui peut encourager aussi la déscolarisation dans un pays qui a des taux de scolarité pas très élevés de base, qui a aussi augmenté un petit peu les violences de genre, parce que les gens restaient peut-être plus à la maison avec des filles, des parents. Et ce qui a pu, on l'a vu sur certains rapports de l'UNFPA, a augmenté significativement les violences basées sur le genre à ce moment-là. Et aussi le Covid en soi, en fait, ça c'est plus les conséquences du Covid. Ce qui est assez compliqué, c'est que le Covid est un peu dilué dans un nombre infini de maladies tropicales qu'on peut retrouver dans cette zone-là, notamment la dengue, la malaria, les hépatites, la méningite. Ce qui fait qu'en fait, une grande partie des maladies qu'on peut trouver là-bas ont relativement le même conséquence, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des montées de fièvre, ce genre de choses, et sont peu traitées, parce que, voilà, encore un problème au niveau de la santé, sont peu traitées et peu diagnostiquées. Du coup, que ce soit une malaria ou un Covid, c'est un peu compliqué à voir si on n'a pas de traitement, et dans tous les cas, les personnes n'ont pas forcément accès aux soins. Du coup, Covid est peut-être passé un peu plus inaperçu, malgré qu'il soit là, forcément, dans le pays.
Merci Monsieur Ike. Un dernier mot sur le rôle des puissances étrangères en Centrafrique. Il y a une force armée internationale qui est présente sur place. Comment caractériser son rôle?
La MINUSCA, comme on appelle les casques bleus, voilà, en Centrafrique, ont été envoyés en Centrafrique pour prendre des mesures. En fait, leur mandat, c'est prendre des mesures pour une stabilisation de la situation dans les principales agglomérations et contribuer au rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays. Ce qui est une grande mission pour des contingents qui sont assez peu dotés, c'est-à-dire qu'on compte, il me semble, à l'heure actuelle, 11 000 casques bleus. Donc principalement de la sous-région, hein. Il y a beaucoup de Rwandais, de Burundais, mais aussi des personnes qui vont venir de pays comme le Bangladesh ou le Népal. Voilà, du coup, une mission de stabilisation qui est assez compliquée vu la taille du pays, le nombre de groupes armés et le nombre de zones d'agglomération à défendre. Voilà, du coup, la MINUSCA met en place un certain nombre de projets, un petit peu il y a une MINUSCA civile qui va tenter de mettre en place des projets de désarmement, de démobilisation, de réintégration des différents groupes armés pour aider en fait et accompagner ces anciens combattants vers un retour à la vie civile. Mais malheureusement, la MINUSCA est aussi relativement critiquée parce qu'en fait les personnes, les contingents qui le composent ont été plus ou moins en accointance à certains moments avec certaines factions de groupes armés. Par exemple, on a souvent parlé des Tchadiens et des Mauritaniens qui étaient plus ou moins en accord avec les factions Seleka. Enfin, il y a une manque d'information aussi de ces personnes. En fait, beaucoup des pays dans le monde se servent un petit projet de casque bleu pour envoyer leur staff militaire pour avoir une formation et un salaire dans des pays qui ne sont pas le leur, en fait, et qui ne comprennent que très peu, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'une personne du Népal viennent en Centrafrique pour faire de la stabilisation peut être aussi assez compliqué vu les différences un peu culturelles qu'on peut voir entre les deux pays.
Merci. Alors, quand on parle de la Centrafrique, depuis des années, on évoque aussi le rôle grandissant de la Russie. Est-ce qu'on peut l'observer de façon assez nette sur place? Et est-ce que véritablement, c'est une compétition avec la France, l'ancienne puissance coloniale, hein, vous l'avez rappelé, qui perd hein, sur place?
Alors oui, effectivement, la Russie est quand même très présente et notamment quand on va dans certains bars à Bangui, on peut entendre parler russe. Il me semble en novembre, il y avait la Russie a donné des chars à la FACA, du coup l'armée centrafricaine, et il y a eu des défilés partout dans Bangui avec ces chars russes. Du coup, effectivement, la Russie commence, enfin depuis 2017, a été autorisée par l'ONU à envoyer des armes et des instructeurs militaires à Bangui malgré un embargo international sur les armes depuis 2013. Ces Russes en fait forment la FACA qui elle aussi a été critiquée, c'est-à-dire la FACA, c'est la force armée centrafricaine qui a été elle aussi critiquée à de nombreuses reprises parce qu'ayant commis des exactions et ayant une approche assez relative des droits de l'homme, si je peux dire. Mais voilà, ces Russes prennent de plus en plus d'une importance au niveau de la Centrafrique et s'occupent par exemple de la sécurité présidentielle, veulent en fait jouer un rôle plus important dans ce pays dans les années à venir. Sous couvert de contrats un petit peu miniers avec une exploitation des ressources un peu de la zone.
Dernier mot pour conclure aussi sur le rôle de la Chine. On dit que la Chine, on le sait, hein, est très présente en Afrique, notamment pour y exploiter les ressources. Et il y a un rapport de l'ONU qui dénonçait il y a quelques mois justement un désastre écologique, la pollution d'une rivière au nord-ouest de Bangui, accusant des compagnies minières chinoises d'en être responsables.
Oui, alors ça, c'est... Bon, encore une fois, c'est dans ces pays-là, tout est possible, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu d'États, il y a tellement peu de contrôle, il y a tellement peu de suivi, et tout se passe plus ou moins sous main que ce genre de choses doit être assez commun, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est écologie doit être observé de très loin, en fait, dans ces pays-là, et l'intérêt va être un peu un intérêt de prédation de grandes puissances qui vont tenter d'installer un peu leurs intérêts économiques sur le pays. Alors il y a un film qui est assez intéressant et qui peut montrer un peu cette prédation que peuvent avoir certaines personnes et certains pays sur la Centrafrique. C'est The Ambassador de Matt Bruggers, qui est du coup un journaliste danois qui est venu en Centrafrique pour acheter des diamants sous couvert d'être un diplomate. Voilà, du coup, je le conseille un petit peu pour montrer, pour avoir une bonne idée un petit peu de la Centrafrique, de la manière dont fonctionnent un petit peu les rouages internes là-bas.
Eh bien, je vous remercie très chaleureusement, Nicolas Ekied, d'avoir bien voulu revenir hein, sur votre expérience en Centrafrique et nous expliciter un petit peu certains tenants et aboutissants de la situation dont on a compris qu'elle était extrêmement compliquée sur place. Et puis, on a retenu aussi le conseil de film hein, pour en savoir plus qu'on remettra sur notre site internet. Merci beaucoup et bonne continuation à vous.
Merci beaucoup pour l'invitation et bonne continuation aussi.